soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à toutes et à tous. Sporama, ravi de vous retrouver sur VOA Afrique comme chaque lundi. On embarque pour la troisième saison de la Basketball Africa League dont la phase finale se joue à Kigali. Et on sera avec Yakuba Ouédraogo, notre envoyé spécial qui nous fera le point des premiers matchs joués hier. Bonsoir Yakuba.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Heureux de vous avoir en direct. Au sommet également, le ballon rond, le football avec le sac du Sénégal à la CAN des moins de 17 ans. Enfin, on connaît les affiches de la finale des deux compétitions des clubs de la CAF. On parlera de tout ceci avec les consultants maison. Amédine Sy, du côté de Columbus dans l'Ohio. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Amine Birouk est lui à Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Et puis le doyen Jules Valentin Ngwe qui réside à Libreville au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Allez, Sporama, c'est parti. Voilà, on commence par la troisième saison de la Basketball Africa League à Kigali au Rwanda avec les quarts de finale. Et le Petro de Luanda a tenu difficilement son rang devant Abidjan Basketball Club. Les Angolais, vainqueurs 88-84 à l'issue d'un dernier carton rocambolesque et qualification également pour Alali du Quai, tombeur du club hôte Rwanda Energy Group 94-77. Pour sa première, le stade malien passe en demi-finale après son succès 78-69 sur les Tigers d'Afrique du Sud. Une première aussi pour les Sénégalais de l'AS Douane qui ont dominé les Mozambicains de Ferroviário Beira 93-73. On se tourne vers vous Yakuba. Comment vous avez vécu ces quatre explications explosives dans une ambiance électrique?
Écoutez Élisée, on a vécu ici des quarts de finale palpitants, dont le dernier match en date, celui par lequel je commence, ce match épique de basketball, une véritable leçon de basketball entre Petro de Luanda et Abidjan Basketball Club. Vous le savez, hein, sur papier, les Angolais partaient déjà favoris, eux qu'on voyait justement comme étant cette équipe favorite pour remporter le trophée final. Mais depuis hier dimanche, eh bien, les Ivoiriens ont semé le doute dans la tête des Angolais, car même si Petro l'a emporté finalement 88-84 dans le dernier quart de finale de ses playoffs Kigali 2023, ce fut un match serré, très serré, du début jusqu'à la fin, 41 partout à la mi-temps entre les deux formations, alors que on annonçait la formation du coach José Neto de Petro de Luanda comme étant celle qui est favorite, comme étant celle qui allait sans doute creuser l'écart face à la coach Liz Mills et ses garçons. Mais en face, les Ivoiriens ont du répondant, les Ivoiriens ont renforcé leur équipe avec notamment Taylor, le Kenyan qui a déjà connu la coach Liz Mills, qui a coaché l'équipe nationale du Kenya avant de passer de l'autre côté de l'AS Ali, avant de se retrouver du côté d'Abidjan cette année. Il y a aussi Aruna qui était là bien sûr depuis le début de cette compétition-là et qui a été énorme. Tout compte fait, il y a aussi Omar Abada, le Tunisien qui a rejoint Abidjan Basketball Club, donc après la phase de poule justement qui a eu lieu à Dakar. Et donc, cette équipe-là renforcée a tenu tête à Petro de Luanda, malgré la présence des joueurs comme Major, comme Pedro, comme Consalves, comme Dundao, celui-là même qui a porté cette équipe angolaise, parce qu'à un certain moment donné, c'était très difficile pour l'équipe angolaise de se retrouver, même si le score était resté serré jusqu'à la fin. Après, les Ivoiriens dominaient dans le jeu, donc ils ont pousser les Angolais jusqu'à leur dernier retranchement. Et tenez-vous bien, jusqu'à 8-5 secondes de la fin, ce n'était pas fini si Mike Fofana n'avait pas raté, bien sûr, son premier lancer franc. L'équipe ivoirienne aurait recollé au score devant Petro de Luanda. Ils allaient nous conduire tout simplement à des prolongations. Ils allaient prolonger notre bonheur, comme je le disais à Cheikh Tiro, avec qui je commentais ce match-là. En tout cas, ce fut un très beau match de basketball, un match qu'il faudrait enseigner dans les écoles de basketball, parce que pour ce qu'on a vu, c'est vraiment grand, c'est énorme comme performance de la part des deux équipes, mais aussi tactiquement de la part des deux coachs qui ont su à quel moment il faudrait prendre des temps morts, à quel moment il faudrait remplacer tel joueur ou pas. Et on l'a vu, le coach José Neto a senti que Majok, qui habituellement était très fort dans les contres, était peut-être un peu hors de son sujet hier. et il a remis sur le banc pour le faire monter dans les 5 dernières minutes. Et Majok était énorme avec ses contres qui ont permis à cette équipe, bien sûr, de Pedro de tenir parce que Abidjan commençait à prendre le large. Et donc, en tout cas, ce fut un dernier quart de finale épique, je le répète encore, une véritable leçon de basketball à enseigner hein, dans les écoles de basketball. Et pour le reste, bien avant cela, bien sûr, il y a eu ce match entre l'AS Douane et Ferroviário da Beira du Mozambique. L'écart était net. Les Sénégalais ont montré qu'ils avaient du cran avec un grand Samba Falin, un grand aussi Crawford, comme d'habitude, qui a porté cette équipe de jeunes Sénégalais locaux. C'est ce qui est intéressant dans cette équipe-là et qui ont fait le boulot, tout comme Jean-Jacques Boissy et autres. Jean-Jacques Boissy qui avait commencé fort, mais qui était un peu à demi-teinte. Mais malgré tout, le collectif sénégalais a pris le dessus. Et finalement, les Sénégalais se sont imposés hein, devant Beira, 93 à 73. Même si à un certain moment donné, il faut le reconnaître, les Mozambicains avaient commencé à recoller au score. Et donc, bien avant justement ces deux matchs d'hier, il y a eu les premiers quarts de finale qui se sont disputés dans la Kigali Arena, bien sûr, entre le stade malien de Bamako et Cape Town Tigers d'Afrique du Sud. Il n'y a pas eu photo. Le stade malien s'est imposé 78 à 69. Le stade malien qui continue de surprendre, parce qu'il faut le reconnaître, c'est leur première fois de participer à cette Basketball Africa League, mais déjà, ils font vraiment très fort. Et puis, il y a eu ce match après entre Al Ahly d'Égypte, très très en forme, et Rwanda est du groupe. Victoire des Égyptiens 94 à 77. Une énorme équipe égyptienne, j'allais dire un rouleau compresseur hein, qui a tenu vraiment à l'écart cette équipe rwandaise malgré la présence dans les tribunes du président Paul Kagame et son épouse et de sa ministre des Sports. Écoutez, en tout cas, ce fut de très belles affiches hein, de quart de finale. Les matchs ont été très intéressants. Place maintenant sera faite au demi-finale mercredi et ça va se jouer gros hein, entre Petro de Luanda et l'AS Douane du Sénégal et puis le stade malien de Bamako qui fera face à Al Ahly d'Égypte. En tout cas, les Sénégalais peuvent visionner et revisionner ce match d'ABC face à Petro plusieurs fois pour comprendre que cette équipe angolaise peut être bousculée et que lorsqu'elle commence à douter, ça peut vraiment profiter à l'adversaire. Quant à la rencontre entre le stade malien de Bamako et Al Ahly d'Égypte, c'est intéressant pour les Maliens parce qu'en fait, ils partent en outsider. De toute façon, s'ils sortent ici des demi-finales face à Al Ahly d'Égypte, écoutez, déception, oui, il y en aura parce que on ne participe pas pour sortir à un moment donné. Il faut aller le plus loin possible. En tout cas, Élysée, les demi-finales auront lieu mercredi. On est prêt, on les attend en tout cas de pied ferme. Mais aussi, on attend hein, ce troisième match qui va se disputer sans doute entre les deux perdants de ces demi-finales. Et puis, l'épique finale, bien sûr, la boucle des boucles, comme le dit, pour le samedi 27 mai. Merci.
Merci à vous aussi, Yakuba. Ravi de vous avoir en direct. Une chose est sûre, on vous aura toute la semaine dans nos différentes éditions du journal pour le point des matchs. Allez, reposez-vous bien. On se tourne vers vous, Ahmedine Sy. Les douaniers sénégalais dans le dernier carré. Et c'est une première.
Tout à fait, Élysée. Car lors de la saison inaugurale, le tour sénégalais s'était arrêté en quart de finale. Mais pour cette fois-ci, ils vont bel et bien disputer les demi-finales puisque les douaniers se sont qualifiés en écartant quand même les Mozambicains de Beira. Un match dominant de bout en bout par les Gabelous qui ont remporté tous les quarts temps, 28-23, soit 5 points lors du premier acte, puis 52 à 37 à la mi-temps, soit 16 points d'écart. Les douaniers vont creuser même l'écart lors du troisième quart temps. Ils ont remporté cet acte par 19 longueurs d'écart. Ensuite, ils vont gérer quand même le money time ou le quatrième et dernier quart temps pour s'imposer sur le score de 93 à 73, soit 20 points d'écart. Il faut dire que les Polonais de Mamoudou Gueye et Pabi ont été phénoménal dans sa rencontre, surtout le Pucero Samba Dali Fall qui a été quand même le MVP de cette rencontre en marquant 23 points, en délivrant 5 passes et en prenant 6 rebonds. Avec cette belle victoire, l'AS Douane prend non seulement sa revanche sur cette équipe mozambicaine qui l'avait battue lors de la saison inaugurale, mais la Douane valide son ticket pour les demi-finales pour la première fois de l'histoire Élysée.
Le stade malien aussi passe en demi, ceci grâce à John Wickens, grand artisan des deux premiers cartons. On l'écoute au micro de Yakuba Ouédraogo.
C'est un grand honneur parce que voilà, c'est la première fois qu'une équipe malienne arrive si loin. Voilà, on grève nos noms dans la roche de la balle. Maintenant, on rêve de plus haut et on va essayer de se battre pour aller le plus loin possible.
Le club de Bamako jouera en demi les redoutables Égyptiens d'Al Ahly du Caire. Jules, en l'absence des deux premiers vainqueurs venus du nord de l'Afrique, Zamalek et Monasti, le géant du Caire, récent champion d'Égypte, s'affiche clairement.
Élysée, une absence d'autres rivaux du nord du continent qui ne diminue en rien le mérite d'Al Ahly, le leader incontesté de la place forte du basketball continental qu'est l'Égypte, surtout ces dernières années avec le repli relatif de la concurrence tunisienne. Pour cette rencontre à élimination directe contre le Rwanda Energy Group, les Égyptiens, dont le renfort réglementaire, aussi bien sur le parquet que sur le banc, semblent avoir été plus qualitatifs et judicieux, ont dominé la première partie de la rencontre avec à la clé une avance de 46 contre 32 à la mi-temps. Le REG a eu le mérite de trouver la parade au troisième quart-temps en défendant mieux, en multipliant les interceptions et en étant plus conquérant dans la raquette, ce qui lui a permis de recoller au score. Mais un temps mort très à propos, en fin de troisième quart-temps, va arrêter l'hémorragie et inverser la tendance avec l'amélioration de la production au rebond et l'adresse des shooters à 3 points. Le score final de 94 à 77 au profit d'Al Ahly est un signal fort à l'adresse du grand rival angolais qui, lui, devait se produire le lendemain.
Merci Jules. Il faut dire que le Rwanda est devenu incontournable en matière de sport. Le pays s'est doté d'infrastructures de qualité et attire les grands événements comme le congrès de la FIFA ou encore la Basketball Africa League. Yacouba Ouédraogo s'est rapproché de la ministre des Sports du pays.
Nous sommes très honorés, nous sommes très contents. C'est toujours une belle expérience et une très bonne opportunité pour nous, pour le Rwanda et pour le pays, de pouvoir mesurer notre évolution, surtout dans la capacité d'organiser un événement d'une telle ampleur. Cela reste toujours une occasion, une très belle occasion pour nos jeunes professionnels surtout, qui évoluent dans le milieu du sport, et aussi encourager ceux qui sont encore plus petits de pouvoir évoluer aussi dans le même milieu du sport et dans toutes les autres disciplines connexes telles que, vous venez de le dire, l'événement, le commerce et le tourisme pour le Rwanda. Donc cela contribue beaucoup, beaucoup, très beaucoup, je dirais, à la vision de notre pays de devenir un point de référence pour toutes les activités sportives.
Voilà qui est clair. Alors, Amine, la preuve, 3 saisons de suite pour la balle. Maintenant, les organisateurs doivent penser à d'autres pays pour la promotion de cette compétition.
Beaucoup de pays, en particulier le Rwanda, ont compris avant tout que le sport était une vitrine. Il fait partie de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le soft power et il est nécessaire à ce niveau-là, de mener une diplomatie sportive. Elle passe par avoir de belles infrastructures, d'accueillir de grands événements, de pouvoir porter l'image du pays au-delà des frontières, que ce soit sur le continent ou un peu partout dans le monde. Et je pense que le Rwanda est en train de réussir à ce niveau-là avec l'organisation de la 3e édition de la Basketball Africa League, la convention avec la NBA y est pour beaucoup. Et aujourd'hui, on ne peut que se réjouir de la qualité des infrastructures, de l'accueil qui est fait par le Rwanda. Et puis, on espère que d'autres pays vont pouvoir emboîter le pas et contribuer à la promotion de la compétition. On ne peut pas être circonscrite uniquement au Rwanda. D'autres pays d'Afrique qui ont une belle réputation dans le domaine du basket devraient proposer leur candidature et ne pas se contenter uniquement de participer à Kigali. Je pense en particulier à l'Égypte, qui est un bastion du basketball africain, au Nigeria, au Sénégal, qui a donné autant de joueurs à la NBA. Et ce serait peut-être l'occasion de pouvoir un peu sortir de cette routine. Mais quoi qu'il arrive, le fait que le Rwanda est le pays organisateur de la compétition est déjà un garant de la réussite sportive et organisationnelle, et qu'il y aura aussi un engouement populaire autour d'un produit, d'un concept, qui est appelé à grandir et qui fait aujourd'hui la fierté de tous les Africains.
On rappelle les affiches des demi-finales prévues le mercredi prochain. Stade malien Al Ahly et l'AS Douane Petro de Luanda. On parle football à présent. D'abord les clubs et on connaît les finalistes de la Ligue des champions de la CAF. Il s'agit d'Al Ahly du Caire, double vainqueur de l'Espérance de Tunis 3-0 et 1-0, et du Wydad de Casablanca qui a écarté les Mamelodi Sundowns 0-0 à l'aller et 2 partout au retour en Afrique du Sud. Amine, le WAC qui profite du but marqué à l'extérieur, défendra bien son titre face à Ali venu de loin.
Peu de supporters du Wydad étaient aussi confiants après le résultat du match aller, le 0-0. On pouvait se dire aussi que c'était le moins mauvais résultat pour les hommes du Bel Sven Vandenbroek, d'autant plus qu'ils n'avaient pas concédé de but. Le fait de se déplacer dès mardi soir en Afrique du Sud leur a permis de pouvoir peaufiner tranquillement leur stratégie loin de la pression et du tumulte de Casablanca, et surtout ça leur a permis de s'acclimater aux conditions du match. En général, les rencontres en Afrique du Sud ne sont pas aussi, je dirais, tumultueuses, en tout cas en termes de préparation. L'avant-match se passe souvent de manière très sereine. On est loin de la passion des pays du Maghreb ou de quelques petites entourloupes qui pourraient empêcher l'équipe visiteuse de se préparer dans le calme, terrain d'entraînement endommagé, etc. Et pour ce qui est du match, on a vu une équipe du Wydad compacte, peut-être sa meilleure copie du Wydad depuis le début de la saison. C'est une équipe qui n'a jamais cédé à la panique, qui n'a jamais été anxieuse, en dépit du fait que les Sud-Africains ont mené deux fois au score, 1-0 puis 2-1. On a vu un Wydad plutôt relâché, qui a su jouer ses cartes à fond, avec des joueurs qui ont retrouvé une forme optimale au meilleur moment possible. Je pense à Moutarji qui est de retour, le double buteur de la finale de la saison dernière. Je pense à Ounajem qui a porté son expérience sur le côté droit. Et à ce combattant qui est le Congolais Zola qui a refusé de sortir une et plusieurs fois alors qu'il avait le front ensanglanté après un choc avec son coéquipier Sambo Junior. Le Wydad a su frapper au moment où il fallait. Il a su trouver la faille dans la défense sud-africaine, qui a souvent pêché sur les coups de pied arrêtés. Et aujourd'hui, c'est le capital expérience, c'est le capital ADN qui fait que le Wydad, les Rouges et Blancs, sont en finale de la Champions League africaine pour la 4e fois en 8 saisons. C'est le premier club marocain qui arrive à 2 finales consécutives de la Champions League. Et il se pourrait, le 4 et le 11 juin prochain, lors d'une double confrontation avec l'Ahly d'Égypte pour le remake de la finale de la saison dernière, que ce soit un bis repetita pour le Wydad qui deviendrait pour la circonstance le club marocain le plus titré en Champions League, il dépasserait le mythique Raja avec 4 consécrations, et surtout ce serait le premier club marocain capable de conserver son titre dans la plus belle des compétitions continentales. Encore faut-il que l'Ahly l'entende de la même oreille et que l'Ahly ne soit pas capable de répondre aux défis. On a vu que les Égyptiens étaient en train de monter en puissance, preuve en est leur double victoire face à l'Espérance de Tunis.
La même affiche en finale l'année dernière. Alors, en Coupe de la CAF à Médine, la finale de cette année mettra aux prises le Mouloudia d'Alger, tombeur des Ivoiriens de la SEC d'Abidjan au Tanzanien de Young Africans, révélation de la compétition.
Oui, Élisée, c'est l'équipe tanzanienne et d'ailleurs quand même la révélation de cette compétition car elle n'a pas été attendue hein, à ce niveau de la compétition, mais ils ont été à la hauteur durant tout leur parcours et c'est avec la preuve avec cette double victoire hein, en demi-finale face aux Sud-Africains. Ils les ont battus à l'aller par 2-0 et ils ont encore battu cette équipe par 2-1. Il faut dire que cela constitue quand même une surprise hein, mais si on regarde tout ce que les responsables du football tanzanien sont en train de faire, ils ont beaucoup investi hein, en recrutant les meilleurs joueurs du continent à l'image du Congolais Piston. Mais il faut dire hein, que les Tanzaniens auront fort à faire puisqu'ils auront en face de le Mouloudia d'Algérie, une équipe très expérimentée, une équipe qui a déjà gagné la Ligue africaine des champions, l'ancêtre même de la Ligue des champions puisque c'était la Coupe des clubs champions, c'était en 1971. Eux aussi, ils ont bien négocié hein, parce qu'ils ont tenu en échec la ZEC d'Abidjan lors de la première manche 0-0 puis remporté par 2-0. Donc, ce sera une finale inédite entre deux belles formation Élysée.
Et voilà, la finale aller de la Ligue des Champions se joue le 4 juin prochain et celle de la Coupe CAF une semaine plus tôt. Et Coupe d'Afrique toujours, mais celle des moins de 17 ans en Algérie, avec le sacre du Sénégal qui a renversé en finale le Maroc sur le score de 2-1. À Médine, les coéquipiers d'Amara Diouf ont inversé le sort du match en 4 minutes et offrent au pays son 4e titre continental, le 3e en 4 mois.
Tout à fait, Élisée, les Lions ont offert au football sénégalais un 5e sacre historique en l'espace d'un an, car après le sacre des Lions seniors, je veux parler de la bande de Sadio Mané en 2021 au Cameroun, le sacre des Lions du Butchoke, le sacre de l'équipe nationale locale lors du CHAN et le sacre de l'équipe nationale de U20 autour de la sélection U17 de remporter la Coupe d'Afrique quand même des U17, c'est historique. Élisée, il faut le dire, mais les poulains de Saloudia ont souffert avant de remporter cette finale face à une belle équipe marocaine qui a tenu la dragée. D'ailleurs, les Marocains ont mené au score. Ils ont marqué dès la 14e minute, mais Amara Diouf et ses partenaires vont quand même renverser ce match en 4 minutes en égalisant à la 79e minute sur penalty grâce à Serigne Salou Diouf avant quand même de prendre l'avantage à la 83e minute sur une tête de Mamadou Savané. Ensuite, ils ont géré ce match pour remporter ce titre. C'est une manita historique, je le rappelle, et j'aime à le rappeler, Élisée.
En espace de 2 ans, donc, 5 trophées au total pour le Sénégal, quand on ajoute donc le beach soccer. Jules, c'est simplement inédit ce que réalise le Sénégal.
Élisée, le Sénégal vient tout simplement de réaliser le grand chelem chez les hommes. Il ne lui reste plus que la victoire à la CAN des U23 pour confirmer l'essai. C'est tout simplement, et cela vaut aussi pour le Maroc, le résultat d'un travail de fond commencé il y a plus de 2 décennies. Le Sénégal est entré dans l'ère de l'industrialisation de son football. Le niveau d'ensemble d'une compétition très relevée, où outre le finaliste malheureux le Maroc, le Mali et le Burkina Faso auraient aussi mérité le titre, démontre que cette dynamique se répand. Mais comme pour sa victoire finale au CHAN sur les mêmes terres, c'est la maturité tactique d'acteurs pourtant jeunes et leur capacité à exploiter le moindre détail utile qui leur a donné la victoire. Contre le Maroc, les Sénégalais ont su profiter de l'erreur des Lionceaux de l'Atlas qui, en reculant à un quart d'heure de la fin de la rencontre, qu'ils menaient pourtant depuis la 14e minute, ont accepté de ramener dans leur propre surface de réparation des batailles aériennes perdues à l'avance contre d'Athletic Sénégalais. Les 2 buts encaissés en 2 minutes ou 80e et 82e minute viendront de là. Belle lucidité précoce chez les jeunes et bravo.
On termine à présent dans les coulisses pour dire que le Bénin récupère 3 points sur tapis vert face au Rwanda en qualification pour la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Initialement tenu en échec 1-1 à Kigali fin mars pour le compte de la 4e journée des éliminatoires, les Béninois vont récupérer les points de la victoire, annonce la CAF. La raison, vous le savez bien, l'attaquant rwandais Kevin Mouirier n'aurait pas dû prendre part au match pour cumul de cartons jaunes. Une bonne nouvelle pour le sélectionneur d'équipe, Kenneth Roy, qui se projette déjà sur les 2 dernières rencontres.
On s'attendait à cette décision de la CAF de nous attribuer les 3 points de la victoire au Rwanda. On avait bien suivi notre adversaire et on savait qu'il y avait un joueur qui avait reçu un 2e carton jaune au match aller à Cotonou contre nous et qui devait être suspendu pour le match retour. On a vu qu'il était sur le terrain, donc la loi a été appliquée et on nous a attribué les 3 points sur le score de 3-0. C'est une bonne satisfaction, évidemment, mais c'est surtout une obligation de faire maintenant tout pour arriver quand même à se qualifier pour cette prochaine CAN. Ça paraissait très difficile, d'autant plus que nous avons le Sénégal et le Mozambique qui nous attendent pour nos 2 derniers matchs et que nous avions perdu avant l'arrivée du nouveau staff contre le Mozambique, 0-1 à domicile. Et en cas d'égalité, on sait bien que c'est le goal average particulier qui va compter. Donc toujours très compliqué de se qualifier, mais on y croit. On pense que le Sénégal, évidemment, a la meilleure équipe d'Afrique. À Cotonou, ils vont venir avec, évidemment, beaucoup de confiance. Mais on y croit, on pense que c'est possible de faire un exploit et de faire un résultat contre cette belle équipe.
Les choses changent désormais dans ce groupe L et en faveur du Bénin désormais deuxième avec 4 points. On retient donc que le 17 juin, le Bénin reçoit le Sénégal avant de se rendre à Maputo le 4 septembre. Sporama qui s'achève. On se retrouve lundi prochain. D'ici là, profitez bien de nos programmes. Dans un instant, le journal. Au revoir.